Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir.
Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre quelqu'un qui, malgré sa vision parfaite, baigne dans le monde des non-voyants depuis son tout jeune âge. Mélissa Cécire.
Depuis le début de la journée et que je pense à mon entrevue d'aujourd'hui, que j'ai le sourire aux lèvres parce que j'avoue que ça me fait drôle d'interviewer la personne d'aujourd'hui. Parce que cette personne-là, je l'ai connue dans d'autres circonstances que les circonstances actuelles. Je peux vous dire d'entrée de jeu aussi que dans les premières émissions, si ma mémoire est bonne, c'est à l'émission 21, j'ai reçu son père. Au mois de novembre, j'ai reçu sa mère. Alors, ça allait de soi qu'aujourd'hui, on allait recevoir la fille. Je vous dis son nom et ensuite on parle d'elle, on vous explique qui elle est, qu'est-ce qu'elle est devenue avec le temps. Elle s'appelle Mélissa Cécire. Bonjour Mélissa.
Bonjour Martin.
Donc j'ai fait une assez longue intro pour dire bon, on a reçu ton père, ta mère, tout ça, parce que on en parlait à micro fermé. Tu n'as pas de problème de vision. Aujourd'hui, c'est une entrevue avec quelqu'un qui n'a pas de problème de vision. Mais tu baignes depuis ta tendre enfance avec des personnes qui ont des problèmes de vision parce que, dans le fond, tes deux parents sont non-voyants.
Exactement.
D'accord. Et est-ce qu'on... J'ai pas pensé de te poser la question avant l'entrevue, mais est-ce qu'on peut dire approximativement ton âge ou...
Oui, sans problème.
Okay.
J'ai 32 ans aujourd'hui.
Donc, t'es né en 1987.
Exactement.
C'est ça. Et de tes deux parents qui sont, comme je le disais, non-voyants. Et vous êtes des jumeaux aussi.
Effectivement. Donc, mon frère a aussi 32 ans.
Oui. Je ne demanderai pas c'est quoi sa date de naissance. Ça, c'est la même. Et vous êtes les deux seuls enfants de la famille aussi.
Oui.
Voilà. Alors, né, 1987, presque en même temps que la compagnie Point par Point.
Tout près, oui.
Tout près. Et moi, j'aurais tendance à te demander, Mélissa, est-ce que c'est quoi tes premiers souvenirs d'enfance? Est-ce que tu en as premièrement?
Oui, effectivement, j'ai certains souvenirs ici et là. Plus jeune, il y a des choses qui me sont restées en tête, un peu plus comme des distances qu'on marchait, comme par exemple, on partait d'un endroit à un autre endroit. Nous, ça se faisait tout à pied, donc nécessairement, ça a créé dans ma tête là, des souvenirs de ces longues marches-là, des endroits qu'on visitait. Quelques souvenirs aussi de mon contexte familial là, par rapport à mes parents qui voyaient pas tout ce que ça l'incluait là, mais
ouais, parce que c'est vrai que là aucun des deux parents peut avoir une voiture. Ça,
non.
C'est sûr que non. Et est-ce que tu te souviens un peu comment qu'on s'aperçoit dans le fond que nos parents ne voient pas?
Non, j'ai pas de souvenir de quand moi je l'ai réalisé. Un peu plus loin, je pourrais discuter de comment on s'en aperçoit parce que je l'ai vécu avec mes enfants à moi. Mais moi, j'ai pas d'événement marquant qui vraiment vient représenter quand j'ai réalisé que mes parents étaient non-voyants.
OK.
Par contre, plus je grandissais, moi, je suis quelqu'un qui est très sensible, très empathique. En vieillissant, c'est là que ça l'a toujours pris davantage d'ampleur dans ma vie et de différentes façons. Fait que c'est sûr que quand on est enfant, on perçoit la vie différemment que quand on devient adulte parce que il y a une foule d'événements qui arrivent qui nous font grandir. Mais étant jeune, à plusieurs moments, je réalisais là ce qui se passait dans la vie de mes parents, puis ça me touchait.
Ça t'atteignait là, ça te laissait pas indifférente là comme enfant, puis plus tard, j'imagine comme adolescente.
Exact. Donc ça, je sais que c'est arrivé très tôt dans ma vie là, d'avoir cette empathie-là envers mes parents. Ça l'enlève pas que dans mon parcours d'enfant, il y a diverses situations qui sont arrivées qui fait qu'on nous, les enfants, moi et mon frère, on réagissait sans nécessairement comprendre tous les impacts de nos gestes comme qu'on peut faire là. Pour donner des exemples, des fois on se parle en signe sans comprendre que ça pouvait être blessant pour les personnes non voyantes d'avoir des personnes qui communiquaient de façon à ce que des gens présents dans la place à cause de leur handicap comprenaient pas la discussion là.
Mm-hmm. Puis ça, bon, ben ça c'est quand même des jeux qui peuvent arriver entre frères et sœurs, j'imagine peut-être entre jumeaux aussi.
Exact.
Mais là, en plus, c'est qu'il y avait des non-voyants autour.
Exact, c'est ça. Et puis là, quand on réalise qu'on peut aller vers cette voie-là quand on est jeune, ben on développe une certaine complicité, puis on peut justement là, explorer cette avenue-là. Là.
Mais au début, c'est amusant, j'imagine. Puis toi, en tant que personne sensible, à un moment donné, tu t'es rendu compte, comme tu disais, que bon, ça pouvait être blessant des fois pour les autres.
Oui, exact. Donc, okay. C'est de trouver la mesure.
L'équilibre un peu là de ce qui peut être comme un jeu, puis...
Exact, parce que mes parents, moi, ont un moral, un très bon moral, ce qui fait qu'on est capable au quotidien dédramatiser la chose et d'en rire. Par contre, avec le temps, on a juste appris à le faire avec respect et...
Ouais, c'est ça, sans que ça soit méchant. Là.
Exact.
Mm-hmm. Et là, si on parlait un peu de toi en tant qu'enfant, parce que bon, forcément, t'as eu une vie d'enfant, j'imagine, semblable à celle des autres, mais juste pour histoire de mieux te connaître, toi, est-ce que t'avais beaucoup d'amis? Est-ce que l'école, comment ça a commencé l'école pour toi? Est-ce que
Oui, en fait, moi, j'étais une enfant très sage. J'étais première de classe, très étudiante. J'avais quelques amis sans en avoir plus qu'il n'en faut. On avait un petit cercle d'amis. Là, on était trois, des fois quatre, cinq, là, sans plus. J'étais très discrète et puis très généreuse, très présente dans la vie là, de mes parents. Trouver l'équilibre dans tout ça, là, donc... Ça, c'est moi quand j'étais plus jeune.
OK. Et là, est-ce que pour... je pose des questions comme ça. Pour les devoirs, des choses comme ça, est-ce que tu te débrouillais beaucoup toute seule? Est-ce que tu avais de l'aide quand même? Est-ce que c'était... Comment qu'on s'organise dans ce temps-là?
Ben en fait, faut le dire, ma mère, quand on était plus jeune, elle voyait.
Quand même, oui. Hein?
Oui. Donc... Et puis là, ça, c'est une petite anecdote, c'est que tous les matins, on validait qu'est-ce que ma mère voyait, parce que sa maladie faisait en sorte que d'une journée à l'autre, c'était pas les mêmes choses qu'elle voyait. Donc, des fois, elle voyait quand il faisait clair, d'autres fois, quand il faisait noir, d'autres fois, ce qu'il y avait en périphérie, d'autres fois, dans le milieu.
Ah, c'est que c'était pas nécessairement clair.
Non.
De savoir exactement qu'est-ce que ta mère voyait.
Exact. Okay. Des fois, quand on est enfant, qu'on fait des niaiseries ou rien de grave, là, mais des petits jeux d'enfant avec mon frère, ben nous, on se demandait toujours, est-ce que ma mère nous voit quand on fait ça, tu sais?
OK.
Fait que, donc, en mentionnant que ma mère voyait de façon très variable, mais elle pouvait se servir de sa vision pour justement effectuer ses tâches du quotidien, puis... s'occuper des enfants et tout là, puis on sait qu'on n'a pas besoin de voir pour s'occuper des enfants, ce qui fait que oui, j'avais certaines choses qu'il fallait que je m'adapte pour la vie au quotidien, mais il y avait beaucoup de choses là qu'on faisait quand même en famille là.
OK. C'est que toi, l'école, c'était quelque chose que t'aimais, t'étais studieuse, t'aimais apprendre, t'étais première de classe, donc t'apprenais bien,
oui.
T'apprenais facilement. Est-ce que au secondaire, ça s'est poursuivi comme ça aussi?
En fait, début secondaire, oui. Puis là, il y a un moment donné où, bon, dans la vie, on fait une rétrospection et on réfléchit à est-ce que j'ai eu une enfance... identique à celle de mes amis? Est-ce que on se pose des questions, puis des fois on trouve des réponses ou on pense à des réponses qui des fois nous font vouloir explorer d'autres avenues, je dirais. Donc, okay. L'aspect un peu peut-être liberté que j'avais un peu moins étant devenue une ressource pour mes parents au niveau de mes yeux. Donc, c'est sûr que quand on est voyant dans une famille de non-voyants, puis à ce moment-là, ma mère perdait de plus en plus la vue. Donc, bon, mais là, pour faire l'épicerie, ça prend quelqu'un qui... C'est beaucoup plus facile quand t'as quelqu'un qui voit. Donc, n'importe quelle tâche de la vie est plus facile quand on voit. Beaucoup comprendront qu'est-ce que je veux dire. Ce qui fait que d'avoir une ressource comme ce qu'on pouvait apporter dans la vie de famille pouvait, à cet âge-là, me paraître quelquefois lourd, sans vouloir mettre l'emphase là-dessus, mais...
Mais tu savais que les autres enfants vivaient pas de cette façon-là.
Exact. Donc, ce qui fait que j'ai comme juste eu un réflexe d'aller explorer d'autres avenues en me disant, mais je sais que mes parents sont débrouillards, ça les mettait pas dans le trouble, mais moi, je vais aller voir comment ça se passe de ne pas être cette ressource-là. Donc ça a été une courte période de ma vie.
T'as fait quoi? T'as changé d'école?
J'ai changé de cercle d'amis. J'étais moins première de classe. Un petit parcours d'adolescent.
Une petite rébellion un peu?
Oui, petite rébellion. Okay. Fort caractère. Je m'exprimais de façon très très caractérielle. Mais aujourd'hui, j'ai le même caractère, mais j'ai appris à m'en servir. C'est la seule différence.
Ouais, ben là, c'est ça. On peaufine avec le temps, là.
Exact. Mais ça, je m'en cache pas. Ça fait partie de mon cheminement. Fait que j'ai eu cette courte période-là qui vraiment, je me suis éloignée de tout ce que j'étais avant et de ma famille pour revenir en force quelques années après. Là.
C'est ça, parce que tu dis une courte période, ça veut dire qu'après, tu as été comme explorer, vivre d'autres choses différentes, puis après, tu as dit, bah, c'est fait.
Exact. Je suis capable de me trouver à travers tout ça, puis d'être présente dans ma famille, mais en essayant de faire autrement.
OK. Disons. Mais quand tu dis que tu étais moins première de classe, est-ce que c'est parce que
parce que je m'en donnais plus la peine.
Moins la peine.
Donc, j'avais des bonnes notes sans nécessairement assister ou faire mes devoirs ou, tu sais, sans assister à mes cours ou quoi que ce soit.
Puis en lien avec ça, est-ce que tu commençais à savoir un peu vers quoi tu voulais aller plus tard? Est-ce que tu t'avais une idée de ça?
En fait, jeune, je voulais devenir avocate. Hein, j'ai dit j'avais du caractère, donc pour moi c'est quelque chose. J'aime ça, débattre des causes. Puis on, c'est probablement que ça vient aussi de mon contexte familial que souvent les personnes non voyantes ont à se débattre pour avoir les droits que toutes les autres ont. Donc probablement que ça vient un peu de ça aussi. J'avais cette option là, mais il y avait aussi mon côté je l'ai dit, très empathique, généreux. Donc ça aussi, ça vient de mon contexte familial, donc de savoir que j'étais capable d'aider les gens. Je voulais aussi aller là en sciences humaines, quelque chose comme intervenant ou intervenant en mobilité ou quelque chose comme ça, ou voir psychologie, là.
Okay.
Donc, j'ai fait un peu d'études dans ce sens-là, mais sans aller plus loin.
OK. Parce que là, je sais pas comment l'apporter, parce que, bon, t'as fait tes études, t'as été au cégep, t'as été à l'université aussi?
Oui.
Oui. Mais ta vie familiale est arrivée quand même assez tôt. T'as eu des enfants assez tôt.
Exact.
Et tu t'es éloignée aussi un petit peu de Longueuil par la suite.
Oui. Mm-hmm. Ben en fait, ça vient en même temps que la période où j'ai été explorer autre chose.
OK.
Pour trouver la liberté dont je parlais, fallait vraiment que je m'éloigne de façon significative parce que en restant à Longueuil, mon réflexe, où ma seule solution aurait été de me trouver dans le milieu où j'essayais d'aller chercher autre chose, puis ça aurait pas répondu.
T'aurais été trop près, peut-être, là, de la source de départ. Là.
Ce qui fait que, bon, j'ai une amie qui, elle, vient des cantons de l'Est, et elle me dit, hey, viens passer la fin de semaine. Puis c'est de même que j'ai rencontré mon conjoint, d'aujourd'hui, dans le fond, qui vient des cantons de l'Est, de la ville de Valcourt.
OK, ça que là, c'est comme ça que tu as découvert un peu cette région-là?
Oui.
OK.
Donc, c'est à ce moment-là, là, j'avais 16 ans, j'ai rencontré mon copain, puis on se voyait tous les fins de semaine. Mais en partant la fin de semaine, ça faisait en sorte que j'avais un moment différent de mon contexte actuel, de mon contexte au quotidien.
Ça te permettait de t'éloigner, mais pas trop, puis pas trop longtemps, puis
exact.
De revenir, puis mais t'as quand même été capable de rencontrer quelqu'un qui est encore dans ta vie aujourd'hui. Ça fait que ça fait quand même plusieurs années.
Oui.
Et moi, je voulais qu'on parle un peu des métiers que t'as eus, parce que je sais que t'as fait beaucoup de choses, t'as acquéri beaucoup d'expérience. Je sais que t'as travaillé avec les policiers.
Oui.
En tout cas, je sais pas ce que tu veux en dire, mais...
Ben oui, en fait, quand ayant eu mes enfants très jeunes, ça fait en sorte que ça a coupé mes études, puis j'ai rien finalisé, j'ai pas obtenu aucun DEC ou attestation ou... quoi que ce soit du cégep, sauf des réussites de cours là, ici et là, ce qui fait que je suis allée me chercher un cours en comptabilité puis en secrétariat. Ce cours-là devait se faire avec un stage, donc j'ai fait mon stage à la ville de Bromont, donc vraiment à la direction générale. Donc c'est un stage qui m'a apporté vraiment beaucoup, puis aussitôt que mon stage a été terminé, je suis venue travailler chez Point par Point pour faire la comptabilité. Donc, j'ai travaillé ici un an et demi. Mais par la suite, la ville de Bromont m'ont rappelé. Là, je suis allée faire un remplacement au poste de police à Bromont. J'ai retourné à la direction générale. Ensuite, je suis retournée à la ville de Waterloo, mais tout dans des postes administratifs. Ce qui fait que j'ai touché à différents volets de l'administration, des budgets, des ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières. Donc, vraiment diversifié comme parcours, mais dans le monde public et dans le monde public.
Et là, je tiens quand même à faire une parenthèse, c'est quand tu es venu travailler chez Point par Point dans la comptabilité que je t'ai connu.
Oui.
Donc, ça fait déjà plusieurs années de ça. Là.
Ça fait 10 ans.
Ouais, ça fait qu'on... comme vous voyez, j'ai connu Mélissa dans des circonstances... différentes. J'aimerais ça qu'on parle un peu, parce que bon, Point par Point est arrivé en 88. J'avais 89 dans la tête, mais c'est 88. Toi, t'es arrivé en 87. qu'est-ce que tu te souviens, toi, de Point par Point, c'était quoi pour toi quand t'étais tout petite?
Ben moi, Point par Point, c'était quelque chose de grandiose pour une enfant de mon âge, parce que dans le milieu où je vivais, les gens, les technologies commençaient à arriver hein, sur le marché, ce qui fait que nous, vu qu'on œuvrait là-dedans dans les technologies adaptées, ça faisait en sorte qu'on avait des ordinateurs, qu'on avait toujours des gadgets, tu sais, les GE qu'on enregistrait, des choses que les autres enfants avaient pas nécessairement là. Donc
c'est ça là, d'avoir des parents non voyants, ça l'avait ça faisait en sorte que tu devais peut-être aider un peu plus, mais au niveau de la technologie, au niveau du travail, ça amenait d'autres aspects aussi qui étaient méconnus des autres enfants.
Exact.
Mm-hmm. C'est que là, toi, tu t'as baigné là-dedans un peu, la technologie, le travail.
Oui, ben en fait, j'ai pas d'âge à mettre, là, mais j'étais très jeune, j'avais commencé à faire des cartes d'affaires en braille, j'avais des petits mandats comme ça ici et là pour Point par Point, le faire de la reliure de livres, des bretellages, donc tout qu'est-ce qui se fait encore aujourd'hui, mais je l'ai fait à différents moments là dans mon parcours. Dans mon enfance, en fait, là.
Et puis, t'avais, ça t'intéressait, ça t'intriguait, ça te...
Oui. En fait, c'est un travail qui est, on peut dire, à la chaîne. C'est toutes des étapes. On complète un produit qui, quand on le finalise, il est prêt à envoyer. Donc, c'est vraiment des jobs que j'aimais avoir, puis en plus c'est quelque chose que pas d'autres, il y a pas d'autres enfants qui faisaient ça là.
Encore là, c'est ça là, parce que des cartes d'affaires en braille, une fois qu'elles sont imprimées, ça fait une grosse boîte de cartes d'affaires, puis là bon, t'envoies ça aux clients, les livres, ça s'en allait aux étudiants, ça s'en allait
Exact, mm-hmm. c'est la même chose là, fait que oui, c'était vraiment un travail stimulant, puis ça m'apprenait aussi à voir quand même les bases là, de ce qu'on doit apprendre quand on commence à travailler. Là.
C'est ça, parce que tu voyais tes parents faire le processus au complet, j'imagine,
Oui.
L'aspect transcription, l'aspect impression.
Ben puis on fonctionnait déjà avec des échéanciers qui étaient quand même très serrés, ce qui fait que on s'est engagé à livrer le produit, ben il faut pas que je lâche en cours de route. Il y a des étapes précises, il y a un contrôle qualité, il y a des caractéristiques à respecter. Est-ce qu'il faut que le serlock soit blanc ou noir ou des choses comme ça qui, quand on commence dans notre profil dans notre parcours professionnel, ben ça nous indique l'importance de chacun de ces détails-là.
C'est ça, c'est que tu avais été conscientisé de tout ça, ben, mis au courant de toute la démarche, de la démarche complète
exact.
À effectuer. Le fait de t'être éloigné un peu de Longueuil, tout ça, ça t'a fait vivre plein d'expériences de travail, on l'a dit un petit peu tantôt, mais c'était beaucoup à contrat. Donc, c'était beaucoup changer de métier, changer de milieu, changer d'équipe.
Oui.
Ça faisait beaucoup de changements.
Effectivement.
Ça, comment tu vivais avec ça? Est-ce que c'était pour toi...
En fait, c'est pas une position qui est très facile quand t'as des enfants. C'est plus quand on est à contrat puis qu'on n'a pas besoin de ramener une stabilité ou quoi que ce soit, c'est déjà beaucoup moins inquiétant. Mais le fait que j'étais pas en mesure de me projeter dans l'avenir sur plus de... des fois, c'était 3 mois, des fois, c'était 6 mois.
Ouf.
C'est un peu épeurant, puis à chaque fois, de fil en aiguille, il renouvelait un contrat dans un autre poste. Donc, j'avais tout le temps à réapprendre aussi là, différentes procédures, directives, travailler avec des gens nouveaux à chaque fois. Là. Donc, ça demande une adaptation assez intense. Là.
Ouais, puis des fois, pour pas longtemps. Là,
exact.
Des fois, 3 mois, ça fait beaucoup d'investissement de temps puis d'énergie pour pas long.
Exact.
OK. Mais par contre, tu as acquéri beaucoup d'expérience. Toute ton expérience au niveau de l'administration, tu l'as acquéri avec ces fonctions-là.
Oui, puis toujours dans des bonnes conditions. Parce que même quand on est à contrat, on a quand même un salaire qui suit un échelon X. Donc, on a quand même... on est considéré... on a des bonnes conditions.
Ah, c'est ça, même si c'est pour pas nécessairement longtemps.
Exact.
Mais à un moment donné, est venue quand même une permanence.
Oui, okay. Donc j'ai changé complètement de ville. Je me suis en allée vers Waterloo, c'est à peu près c'est aussi dans les cantons de l'Est. Et là, j'ai eu ma permanence pas longtemps après pour un poste de réceptionniste. Puis j'ai été là comme tout près de 5 ans.
Ah, quand même, c'est que là, il y a eu 5 ans
de stabilité.
De stabilité,
oui.
Même équipe de travail, oui. les fonctions, tout ça, le salaire, forcément, qui bouge plus parce que, bon, c'est stable.
Exact, un horaire de 32 heures, ce qui me permettait de m'investir auprès de ma famille, parce que quand on travaille 40 heures, ça l'enlève déjà un peu de temps pour... tout ce qui est de la routine, l'éducation, les soutenir aussi dans leur développement scolaire là. Donc ça m'a permis d'être présente là. Je travaillais à 2 minutes de chez nous, puis
ouais,
j'avais une job qui était pas trop exigeante non plus là.
OK. Puis c'est ça, pas loin, ça fait que t'étais rendu rapidement chez toi, tu perdais pas un temps.
Exact.
Forcément. Et 32 heures comme tu dis, c'est comme dans le fond c'est 8 heures de moins que 40, c'est comme une journée de moins sur le total.
Avec 3 enfants, ça paraît.
Oui, puis 3 enfants quand même assez rapprochés.
Oui. Mm-hmm. Bon, en fait, ils ont 3 ans de chaque enfant.
OK, oui, c'est vrai, je l'avais jamais vu comme ça. 2 filles puis 1 garçon.
Oui.
Mm-hmm.
Puis là, tranquillement, pas vite, les enfants ont vieilli, ils ont pris de la maturité, ils se sont responsabilisés. Donc, c'est sûr que là, quand on carbure au défi, puis comme moi, ben on cherche à aller un peu plus loin. Là. J'étais réceptionniste depuis 5 ans là, à la ville. Donc, c'est là que je suis allée me chercher j'ai commencé, je suis retournée à l'école.
Donc, ah, OK?
Je suis retournée à l'université. Je me suis servie, dans le fond, de mon expérience en administration pour postuler sur un poste. Eux autres, il faut vraiment que tu envoies ton CV, que tu te démarques pour aller à l'université sans avoir complété, par exemple, ton cégep.
Ouais, comme pour avoir l'expérience un peu équivalente. Là,
exact. De... Mm-hmm. Puis c'est de même que je me suis qualifiée et je suis rentrée à l'université pour faire un certificat en administration.
Est-ce qu'on réfléchit longtemps avant de décider de retourner à l'université comme ça, une fois la famille faite, une fois le avec une belle position, est-ce que...
Oui.
C'est sûr, hein?
Oui, on y réfléchit longtemps parce que, nécessairement, plus les enfants vieillissent, qu'ils se responsabilisent, plus ça laisse place au passe-temps ou à laisser... Ça laisse place à autre chose dans notre vie de parents, puis on se le cachera pas. Chaque fois qu'on a un peu plus de place, on est content de profiter un peu de ces moments-là. Donc, en allant ajouter une tâche, c'est vraiment comme...
Le temps
libre. Faire le choix de pas profiter de son temps libre,
ça,
dans
là.
Le fond.
C'est dans le fond.
Ou d'en
c'est
profiter d'aller... différemment, je dirais.
C'est sûr, parce que là, c'est quand même beaucoup de... Il y a des cours, il y a des travaux.
Exact, c'est une grosse charge. Puis encore là, on parle vraiment en surface. Ça, c'est avant de commencer les cours. Mais quand j'ai pris ma décision de retourner à l'école, ce que j'avais en souvenir de mon parcours à l'école, j'avais 18 ans, 19 ans. Là, on était 10 ans plus tard, là.
Ouais, ça fait que presque.
Donc ma capacité d'apprentissage, je suis avec des gens plus jeunes, tout.
C'est vrai là, parce que là c'est comme les autres, c'est.
Les autres ils sortent du cégep,
leur cheminement là après le processus.
Donc
standard,
ça aussi là,
hein?
Ça a comme un aspect qui est à considérer quand on retourne à l'école, puis les travaux d'équipe, bon, mais il faut les faire à des pendant que ça convient, mais moi je suis sur le marché du travail, j'ai 3 enfants, eux autres sont ils ont des cours un l'avant-midi, pas l'après-midi, ils travaillent ici et là, mais
c'est ça, c'est qu'il y a des choses, il y a des l'horaire est différent, le tempérament des gens est différent aussi parce que bon, eux sont encore plus jeunes, pas la même maturité.
Ben exact, ça a été une grosse période d'adaptation, mais je suis contente de l'avoir faite.
Mm-hmm. Ça que tu t'en es bien sorti. Ton conjoint, lui, est très occupé aussi. Ça fait que forcément...
Oui. Donc, lui aussi, il est dans le milieu municipal. Il est directeur des travaux publics, ce qui fait que il y a des grosses décisions, beaucoup de tâches qu'il doit accomplir. Puis ça fait qu'on a deux grosses positions. Là.
Ça doit faire des grosses discussions aussi, des fois, là, autour de la table. Et là, dans l'entrevue qu'on a eue avec ta mère, qui est France Provost, elle nous a dit que, parce qu'elle, elle habitait à Longueuil, puis à un moment donné, elle est déménagée plus près de chez toi aussi, pour se rapprocher de toi, puis de ses petits-enfants, parce qu'elle s'implique dans les devoirs. Tout ça, elle nous a expliqué ça. Je trouvais ça vraiment, vraiment mignon. Et là, ce que j'aimerais savoir, dans le fond, un peu, c'est tes enfants à toi, forcément, eux ont des grands-parents qui voient pas. Et ça a dû quand même m'occasionner des fois peut-être des petites situations mignonnes ou cocasses ou...
Oui. Ben en fait, il y a différents moments où on réalise que, tu sais, d'entrée de jeu, je disais que je me rappelais pas à quel moment, moi, j'ai réalisé que mes parents ils voyaient pas. C'est sûr que quand j'ai regardé mes enfants grandir, je peux facilement savoir quand est-ce qu'ils l'ont réalisé, juste par leur façon d'agir avec eux, d'interagir. Donc, souvent, des enfants vont s'élancer vers quelqu'un pour montrer un dessin. mais eux autres, ils vont comprendre qu'il faut qu'ils prennent le doigt de la personne pour faire toucher quelque chose ou que c'est... Mes parents sont des gens qui ont des réflexes très structurés pour pas s'y perdre. Là. Donc, quand ils viennent chez nous, ils savent où ma table de cuisine, mais ils vont prendre la même chaise tout le temps pour pas avoir à tout le temps chercher un endroit où s'asseoir ou trouver des surprises. Là.
Oui, avoir peut-être des habitudes un peu plus...
routinière.
Implantée.
Là. Exact. Là. Mm-hmm. Mais ça fait en sorte que mes enfants, eux autres, ils l'ont réalisé, ça. Puis très tôt dans leur jeunesse, ils étaient capables de guider mes parents à travers ça. Ils comprenaient. Puis quand je dis très tôt, là, j'en ai une, mon enfant du milieu, Zoé, elle avait 18 mois. Puis elle guidait ma mère vers sa chaise quand elle arrivait. Puis c'est quand même remarquable de voir un...
18 mois, c'est pas vieux, là.
Non, pour c'est vraiment pas vieux.
Avoir compris ça, là.
Exact. Puis moi, de mon côté, dans mon éducation, c'est sûr qu'il y avait toujours un aspect qui considère l'accessibilité à l'information dans le sens où quand je pose une question à un enfant autour de la table puis qu'il répond par un signe de tête, je sais qu'il va arriver un moment où je vais poser la même question, mais qu'il va avoir quelqu'un de non-voyant à la table. Puis cette personne-là va avoir manqué la réponse. Donc, j'essaie de leur rentrer dans la tête comment s'assurer au maximum d'inclure, de prononcer l'information pour qu'elle soit compréhensible à
ça,
tous.
C'est ça, de donner une réponse verbale, là, de donner
exact.
Une vidéo description.
Exact. Là, quand ma mère ou mon père soupe à la maison, bon, ben ils vont dire... ton steak est en bas, tu sais, midi, 3h, 6h, 9h, là. Donc, ils ont déjà ces réflexes-là. Ils connaissent comment faciliter la présence d'une personne non-voyante.
Donner des petites informations, mais qui peuvent vraiment être très utiles, puis très... bon, savoir sont où les choses dans l'assiette. Ça évite... d'avoir à trop toucher dans son assiette, puis ça, on sait son où nos choses, puis ça nous permet de manger ce qu'on veut quand on veut.
Exact.
Et bon, tu sais, pour trouver la chaise, ben c'est ça, hein, tu sais, de savoir où on s'assoit sans avoir à chercher ou d'accrocher des gens, ou tu sais, c'est très aidant, puis c'est pas si tu sais, c'est pas des grosses choses, mais c'est bien d'en être conscientisé jeune. Puis de le savoir, puis de le faire.
C'est sûr que ça va les suivre dans leur parcours. Puis à partir du moment où ils ont le réflexe, ben je pense que c'est un plus pour tous les gens qui m'ont croisé, qui ont besoin d'avoir une information supplémentaire ou un soutien supplémentaire.
Et je pense aussi que ça les suit déjà beaucoup, parce que on les voit, hein, passer des fois à la compagnie, puis ça paraît.
Oui. Nécessairement, c'est sûr qu'ils viennent dans l'environnement ici, puis ils ont déjà des bons réflexes pour mentionner leur présence, ils savent qu'il faut qu'ils parlent quand ils croisent, par exemple, quand ils te croisent, faut qu'ils mentionnent leur présence, sinon...
On peut ne pas savoir qu'ils sont là.
Exact.
Puis si on va acheter des choses, admettons, au centre d'achat à côté, ils savent comment nous guider, puis ils savent quoi dire quand on est, admettons, au restaurant, puis tout ça, ça fait que ça paraît déjà beaucoup, on le sait déjà.
Non, puis ça les suit, hein, comme quand on fait leur fête d'anniversaire, ben ils vont eux-mêmes décrire ce qui déballe. Même quand il y a pas de non-voyant, par exemple, je l'ai vu l'autre fois, ma fille a déballé, puis une paire de mitaines skidoo pour l'hiver, grandeur small. C'était quasiment ça, là, mais... Là, j'ai dit, non, mais Noumi est pas là, tu sais.
ça devient comme un réflexe.
Exact.
Ça devient comme une habitude. Pour finir un peu le bloc famille, disons, aussi proche, toi, tu dirais que ça t'a apporté des choses positives d'avoir des parents? Qu'est-ce que tu pourrais dire du côté positif d'avoir eu comme deux parents non-voyants comme ça?
Ben en fait, c'est sûr que ça m'a rendu vraiment responsable parce que, comme je le disais un peu plus tôt, j'étais une ressource à un certain moment donné et je le suis encore. Puis c'est Donc, pour mes parents, ce qui m'a permis d'être responsable très tôt. Donc, j'ai eu des enfants très jeunes, mais je savais déjà une très grosse base de choses que mes amis ne savaient pas parce que j'ai eu à aider mes parents plus jeunes, puis ça s'est amorcé plus rapidement dans mon processus. Mais aussi, quand je mentionnais que je suis quelqu'un de très empathique, très sensible, ça m'a permis de réaliser à quel point mes parents, c'est des personnes qui ont un moral, qui ont un super moral, comment l'être humain est capable d'être débrouillard. Mes parents m'impressionnent jour après jour, là. Donc, j'ai une fierté pour d'être la fille de mes parents qui est encore plus amplifiée par leur capacité à se débrouiller puis à avancer dans la vie.
Parce que tes parents, on va le dire, de toute façon, on les a reçus à l'émission, c'est ils font partie des non-voyants qui sont débrouillards, qui sont positifs, qui foncent quand même dans la vie, qui s'ennuient pas trop.
Effectivement. Mm-hmm.
Là, la question qui, je suis sûr, nous brûle tous les lèvres, Mélissa, moi, j'avais un petit peu hâte même d'arriver à cette partie-là, parce que là, tu nous disais, bon, à un moment donné, tu as eu une permanence, c'était à la ville, à Waterloo, c'est ça?
Oui.
Bon. Et là, tu me disais, je pense que tu me l'as dit à micro fermé, ça que je vais le répéter, mais tu me disais, bon, souvent, je parlais avec mon père, puis on parlait de point par point, puis tout ça, de ce qui se passait, puis et qu'est-ce qui a fait que un jour, bien, la permanence à la ville s'est en allé, puis qu'on s'est envenu chez Point par Point.
Ben, il y a multiples facteurs. Donc, c'est sûr que, comme je le mentionnais, j'étais réceptionniste et à l'école en même temps. Plus je développais mes capacités de gestion, plus j'avais envie là, d'un nouveau défi. Puis, nécessairement, il n'y avait pas grand-chose de plus pour moi à la ville parce que, bon, mais les gens, quand ils ont leur permanence, c'était une équipe qui était très jeune. Il y avait pas de possibilité d'avancement rapidement, je dirais.
C'était comme un peu plafonné pour un bon moment.
Exact. Mm-hmm. Ce qui fait que là, moi, je parle avec mon père. Mon père a toujours... la compagnie avait à ce moment-là déjà 30 ans de... tout près de 30 ans là, de...
D'existence.
Ben oui. Puis ça l'a toujours été chapeauté par mon père. Il a toujours été bien entouré, mais c'est très exigeant là, de diriger une entreprise. Donc, il y a eu, oui, ma mère, il y a eu des employés très, très proactifs, un parcours où il y a eu beaucoup de soutien. N'empêche que c'est très dur pour le mental, puis toujours répondre à des demandes, le stress qui vient avec tout ça, les planifications. Puis plus on en parlait, plus je me sentais outillée avec les cours que j'allais chercher, jusqu'au jour où c'est comme un saut en parachute. J'ai donné ma démission à la ville avec toutes les conditions que j'avais et tout, à 2 minutes de chez nous pour venir travailler chez Point par Point à 1h20 de route, 1h30 de route.
Et là, parce que, bon, je pense bien que tu peux le dire, je pense pas que ce soit un secret. Moi, quand j'ai commencé à travailler chez Point par Point en 2006, ton père parlait de prendre une pré-retraite.
Oui.
Et puis, je peux vous dire que c'est pas dans les premières années que j'ai travaillé ici, en tout cas, que Gérard a pris une pré-retraite.
Non.
Ça fait que quand on veut, à un moment donné, peut-être mettre en place une pré-retraite, il faut quand même qu'on sente qu'il y ait des choses qui se placent aussi autour. Puis de savoir que sa fille peut être là, j'imagine que ça peut être rassurant.
Oui, effectivement.
Parce qu'au début, toi, tu étais venu chez Point par Point, tu avais comme dossier, on s'était occupé du dossier de...
Technovision.
Mm-hmm.
Oui, donc à ce moment-là, je me suis beaucoup impliquée au niveau du marketing, des communications. Donc, c'est un volet qui était manquant dans l'entreprise. Il y avait comme pas de rien de mis en place pour cet événement-là. Donc, je l'ai pris en charge, puis ça m'a permis de vraiment bien m'intégrer dans l'équipe avec un projet qui était très rassembleur, qui me permettait aussi en même temps d'en apprendre davantage sur c'est qui nos collaborateurs, tant les fournisseurs, les clients, l'équipe, les organismes autour, parce que un projet comme Technovision, c'est tout ça.
Exact.
Donc, c'est de même que ça l'a commencé.
Et c'est ça, avec quand même un gros dossier, mais qui t'a permis de te mouiller, comme on pourrait dire, à différents niveaux. Et après ça, sont venues des responsabilités encore plus grosses. Parce que là, maintenant, ben, je dis maintenant, mais ça fait, officiellement, ce serait quoi que t'es devenue comme vraiment la directrice générale?
Directrice générale, ben, ça fait peut-être depuis janvier 2018.
OK. Donc, 2 ans, à peu près.
Exact. Mm-hmm. Puis, mes propriétaires de l'entreprise, ça fait depuis le mois d'août 2018.
OK. Ouais, donc, c'est ça. Il y a eu différentes choses qui sont arrivées à différents moments, là. C'est pas comme tout arrivé en même temps.
Tranquillement, pas vite, mon père, bon, voyait que je m'impliquais très proactivement dans l'entreprise, que j'avais ça à cœur, que j'avais des connaissances qui probablement venaient de mon enfance, que moi-même je le savais pas, tu sais, à force de discuter avec mes parents ou même d'avoir travaillé en bas, j'avais des connaissances qui me permettaient de me positionner dans différentes situations. Donc c'est sûr qu'en envisageant ça, ça commence à se concrétiser pour planifier peut-être justement une pré-retraite ou quelque chose comme ça. Puis le fait que moi je venais de sortir de l'école aussi a fait que j'avais des méthodes d'intervention différentes, je dirais, ou des méthodes de gestion différentes, mais qu'au bout du compte on arrivait à trouver comme un terrain d'entente, mais pour vraiment avoir la capacité de gérer ça différemment, c'est là qu'on a pris la décision de faire ça, que je devienne en charge de l'entreprise.
OK. Donc, toi, quand t'es arrivé, t'avais déjà l'impression forcément d'en connaître beaucoup et t'as mis en place des moyens pour aller peut-être chercher des aspects que tu connaissais moins. Ben, tu t'es beaucoup impliqué dans tout le processus de tous les départements de la compagnie.
Oui. Mm-hmm. Oh oui, exact. Pour vraiment savoir dans quoi que je m'embarquais. Encore aujourd'hui, je parle de multiples heures avec mon père par jour, avec mon père et ma mère, qui me conseille, me guide, m'amène justement tout ce que je pourrais ne pas avoir vu ou tout simplement m'aider à débattre ce que j'ai vu pour prendre des décisions éclairées, là.
Mais c'est quoi qui t'intéressait le plus? Est-ce que c'était le justement comme d'avoir un défi un peu au quotidien, de dire point par point, ça c'est dynamique, ça bouge, on touche à plein de choses. C'était quoi exactement qui te...
Ben en fait, je trouvais que ça... J'ai toujours été impressionnée par cette entreprise-là. Là. Mes parents l'ont... Je sais d'où qu'elle est partie. Je l'ai vue évoluer dans mon sous-sol de maison, tranquillement, pas vite, dans d'autres bâtisses, exact. Mm-hmm. J'ai toujours vu mon père travailler beaucoup trop pour l'entreprise, ce qui fait que pour moi, c'est comme un modèle qu'on voit, puis qu'on ça reste en quelque part en dedans de nous. Puis en même temps, la cause, tu sais, le fait que mes parents, ça m'a toujours touché et tout, de savoir qu'on a une vocation qui permet d'aider des gens dans leur situation, dans leur contexte de vie à bonifier l'information qu'ils ont autour d'eux. Je trouve ça totalement louable, là. Donc, c'est un peu tout ça. Puis en même temps, ben de gérer, ça me permet d'avoir aussi l'aspect plus... fonceur, là, tu sais, quand on dirige une entreprise, ben faut prendre des décisions, puis faut être toujours dans le contexte. Donc ça rejoint un peu tous les aspects là de ce que je recherchais.
OK. Puis les gros défis, ce serait quoi? Est-ce que tu sais, quand on parle du braille proprement dit,
C'est la relève.
C'est ça, hein?
trouver de la main-d'œuvre, c'est très, très, très difficile. Ça prend des gens qui ont une rigueur exceptionnelle pour passer à travers une formation comme celle de transcripteur braille. C'est un parcours qui est long terme. Donc, non, c'est un très, très gros défi.
Mm-hmm. Puis un défi de tous les jours.
Oui.
Puis un défi qu'on, je t'ai pas demandé si on pouvait en parler avant, mais je pense bien. Un gros défi qu'on a eu en fin 2019, ça a été pour Élection Canada, parce qu'on a été très, très impliqués dans ça. Et moi, en tant qu'utilisateur, j'en ai bénéficié. Je veux dire, je me suis fait même une joie d'aller voter pour avoir accès au matériel qu'on avait produit, mais on a été très impliqués, puis ça a été un gros dossier, un gros défi, mais ça a été, je pense,
ça a été une très belle réussite, effectivement. Point par point, on est très fier d'avoir contribué à produire les bulletins de vote à travers le Canada. Donc, c'est un gros défi parce que ça demande de mettre en place des ressources qui, autrement, sont inexistante parce que ça arrive aux 4 ans, donc on n'a pas cette capacité-là. On l'a, mais on la met pas en place nécessairement régulièrement.
À l'année, là,
exact.
C'est sûr.
Donc là, c'est déployer tout ça dans une mesure exceptionnelle, un volume exceptionnel, dans des délais très restreints. Puis ben là, c'est de voir comme toute la collaboration qu'il y a autour de ça, puis comment les gens se sont ralliés à la cause aussi, là, de savoir qui contribuait à produire les bulletins de vote, là, c'est beau à voir, c'est
toute
une belle
équipe,
fierté.
Oui, qui s'est déployée pendant des fins de semaine complètes, puis des longues journées de travail.
On a fait le tour de l'horloge, là.
et finalement, ça a été une très belle réussite. En tout cas, moi j'ai eu mes documents quand j'étais allé voter. En tout cas,
ça, je suis contente d'entendre ça. Effectivement, les commentaires qu'on a eus étaient très positifs, donc c'est on est content d'avoir réussi.
Et là, Mélissa, bon, forcément, tu te déplaces un peu plus pour venir chez Point par Point qu'au temps où tu travaillais à la ville, c'est sûr. C'est du temps où tu dois... Ben, tu le disais, hein, je pense que tu parles avec ton père. Puis tout ça, c'est que tu maximises tes déplacements, mais forcément, ça fait plus de déplacements. Il y a la famille, tout ça. Est-ce qu'il reste un petit peu de temps libre pour te distraire, te divertir? C'est quoi que...
Il en reste un peu. Quelquefois, j'ai voyagé, sinon un peu de temps famille, là, aller jouer dehors, etc. Mais pas, j'ai pas de place pour des projets particuliers, là.
OK.
Donc, je suis pas quelqu'un qui a une activité sportive, par exemple, quoi que ce soit. Mais aussitôt que j'ai un trou, bon, ben ça se peut que j'aille jogger ou...
Oui, parce que tu fais de la course, tu me disais ça, t'en fais avec une de tes filles.
Oui.
C'est
donc, je fais de la place à des activités qui sont pas sur une base régulière parce que je sais jamais quand est-ce que le temps libre va arriver.
C'est ça, mais quand ça se présente, il y a des idées qui viennent et puis...
Oui.
Et en tout cas, c'est vraiment le fun de t'avoir eu comme invité aujourd'hui parce que... Je le disais au début, ça m'énervait un peu. Tu sais, dans le fond, j'interroge ma patronne aujourd'hui.
Ben, pis c'est le fait qu'on se connaît beaucoup
on
aussi.
On se connaît. On se parle des fois sur l'heure du midi dans des contextes autres que le travail. Mais ce que je voulais insister peut-être le plus au niveau du travail, puis que moi je trouve très intéressant, c'est ton implication auprès de d'autres organismes. T'es quelqu'un de curieuse, t'aimes ça connaître les gens, t'aimes ça quand on va dans des activités, dans des soupers, des choses comme ça, que je te présente des gens que je connais, t'aimes ça connaître les gens, c'est vraiment le fun. Moi, j'adore ça.
Je suis quelqu'un de sociable à la base, puis quand on a la chance de rencontrer autant de personnes intéressantes, ben ça stimule encore plus la curiosité, hein.
et les gens sont curieux aussi, je pense, de te connaître, hein, de savoir qu'est-ce qui se passe à Point par Point, parce que forcément, on le disait, ça fait plus de 30 ans que ça existe, donc forcément, on est quand même connu dans le milieu, mais des fois, les gens savent pas exactement ce qui se passe. Puis quand il y a de la nouveauté, puis des gens dynamiques qui sont là, qui s'ajoutent, bien, je pense que c'est bien que ça se sache.
Oui, effectivement.
Alors voilà, je pense que ça fait un petit peu le tour de ce qui se passe, de la vie de ma patronne, Mélissa Cécile. Je te remercie beaucoup de t'être prêtée au jeu. Je pense que ça nous stressait un peu tous les deux, mais...
C'est à mon tour aussi, Martin, de te remercier. C'était très intéressant, puis c'est toujours un plaisir d'écouter les invités que tu reçois qui ont tous une histoire à raconter.
Bien, c'est un plaisir de vous recevoir, de vous écouter, puis de tant mieux si ça peut intéresser et stimuler d'autres personnes. Alors voilà, un gros merci.
Merci, Martin.
Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporé, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions.
À notre prochaine émission, un jeune qui s'investit à fond dans ses études afin de mener à terme le projet de devenir psychologue. François Bellemare à notre rendez-vous du 20 mars.